pour entendre ta louange. Alors, Mandy Gall. Can I confess that Mandy was my student while she was studying at Concordia? So we have a... She had a great, good, very good grade.
Oui, elle avait de très bonnes notes. C'était mon étudiante à l'Université Concordia.
Hello, test. Okay. Excuse me, I'm a little bit nervous.
Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Et tout d'abord, je dois dire que je suis heureuse d'être ici. Je remercie les membres du COMEX d'accepter le témoignage des membres de ma communauté. Je vous remettrai, j'afficherai donc une copie de ma présentation en ligne. Je suis chef adjoint de la nation Cree Waswanapi. En juillet 2015, j'ai été invitée à participer à une expédition pour voir de plus près la Broadback et j'en suis revenue en comprenant mieux l'importance de ce dossier. Je pense qu'aujourd'hui, la communauté Waswanapi a bien énoncé sa position. Elle dit non dans ses affiches, dans ses déclarations. Elle dit non. Je suis ici parce que je veux préciser pourquoi nous disons non. Notre communauté a participé à ce processus, a fait des déclarations, a participé à des négociations pour un projet donc entre ma communauté et les promoteurs. Et ces négociations font l'objet d'un examen par un médiateur, c'est-à-dire COMEX. Le COMEX proposera une solution au gouvernement du Québec. Je suis ici pour dire que ces négociations ont été entamées de façon prématurée et j'ai trois zones de préoccupation. Ce projet fondé sur une étude d'impact réalisée par le promoteur en 2009 et je pense que le comité devrait revoir les données qui y figurent parce que 6 ans se sont écoulés depuis et il y a eu de grands changements donc il faudrait revoir tout cela. Premièrement, il n'y a pas cela voudrait dire une pénurie d'informations avant la mise en œuvre de projet. Deuxièmement, des sources de données dépassées. Et troisièmement, on n'a pas tenu compte d'événements importants sur le territoire. Plus tôt, je n'ai pas eu l'occasion de poser une question. Je vais en poser au cours de ma déclaration. Ce même projet a été proposé déjà par Donahue et on fait référence à cette étude d'impact dans celle-ci. La compagnie voulait fournir 120 000 mètres cubes de bois et dans le premier projet, on devait traverser la rivière Broadback. Et ce projet a dû être abandonné parce que le promoteur n'avait pas respecté l'appel des braves de 2002. Et ce projet-ci ne respecte pas non plus le régime forestier adapté. La communauté a aussi déclaré qu'elle ne pouvait accepter la construction d'un pont au-dessus de la Broadback. Ma communauté maintient cette position et aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il n'y aurait pas de pont traversant la Broadback, mais je tiens à dire que dans la première version, le promoteur avait l'intention de traverser la rivière Broadback. Cela me préoccupe grandement. Maintenant, passons à juillet 2015. Comme vous savez, j'en suis sûre, ce projet, le projet dont nous parlons aujourd'hui, faisait partie des négociations pour parvenir à l'entente Baril-Moses, qui a décimé les territoires de Trapage, de Bistassini. Aucune communauté ne devrait être soumise à une telle situation. Une aire, une zone que ma communauté essaie de protéger depuis 10 ans, c'est-à-dire la partie nord, partie sud de la vallée Broadback, de la Broadback. Et dans le règlement menant à l'entente Baril-Moses, on a proposé des coupes supplémentaires dans une zone tout à fait différente, mais je ne pense pas que nous serions protégés, même en profitant de ces mesures. Ils ont déjà surexploité la forêt. Je ne suis pas sûre qu'elle ne ferait pas de nouveau. Lorsque de telles opérations forestières deviennent une solution proposée, nous avons déjà dit non, mais maintenant, on trouve un autre prétexte pour demander, encore une fois. Wassanapi maintient sa position. Nous demandons la protection de la partie nord et de la partie sud de la Broadback. Et première préoccupation, manque d'information avant la mise en œuvre du projet. Dans l'étude, on dit qu'il faut identifier les sources de l'impact environnemental. Et le promoteur, dans ses réponses, a indiqué qu'il s'engageait à construire des routes où il y aurait accès à des bancs d'emprunt. Mais ils ne sont pas identifiés dans l'étude et il n'y a pas non plus d'étude d'impact pour ces bancs d'emprunt. Il a dit ce matin qu'ils avaient été identifiés, mais il ne les a pas localisés. Donc, on ne peut pas en connaître l'impact. Et cet énoncé ne permet pas de quantifier l'impact sur le territoire de Trapage. Est-ce qu'il y aura 2 bancs d'emprunt utilisés ou 27? On ne sait pas. Ce n'est pas prédicé. Dans l'annexe 7, en janvier 2010, il a été dit par un des maîtres de Trapage touché, M. Adarives, a dit des consultations, lors de consultations passées, il a été dit à plusieurs reprises qu'il n'y aurait plus de gravier utilisé, qu'il n'y avait plus de gravier pour les routes. Il ne pouvait pas y avoir réfection de la route parce qu'il n'y avait plus de gravier. Et maintenant, il y en a suffisamment pour construire une toute nouvelle route, une route beaucoup plus longue, beaucoup plus large que ce qui était nécessaire pour la réfection de l'autre. Il y aura aussi 7 cours d'eau importants qui seront touchés, mais on n'a pas identifié, le promoteur n'a pas identifié les frayères et on a dit qu'il y aurait des précisions apportées pendant les travaux de construction. Le promoteur propose de construire près de cours d'eau, mais ne peut dire quels seront les dommages causés aux espèces de poissons. Comment pourra-t-il se permettre de prendre des mesures d'atténuation? Le promoteur est-il vraiment prêt à assumer les frais de toutes les déviations dont il parle? Et j'ai déjà beaucoup de questions à poser sur cette seule question. Dans l'étude d'impact, on dit qu'il n'y a pas eu d'échantillonnage sur le terrain et que cela se fera pendant la construction des routes. Il n'y a pas non plus de plan d'analyse de ces données. Donc, ils vont procéder à l'aveuglette donc, et décider, voir, analyser tout cela au fur et à mesure. 10 à 15 ans d'exploitation, de développement, c'est ce que, qu'a dit le promoteur, plutôt sans information ou conclusion concrète quant à l'impact du projet. Le seul engagement est d'entamer le projet et de voir au fur et à mesure. Et je ne pense pas que ce soit une bonne façon de gérer un projet. Et pour ce qui est du processus de consultation, je me demande combien de temps disposait la compagnie pour planifier ce projet, des jours, des mois, je dirais quelques jours. Et en lisant le compte-rendu des consultations, il est dit qu'il y a eu 3 séances de consultation le 15 janvier de 13h45 à 15h, le 20 de, en après-midi et le 3 février de 9h30 à 12h30. Donc, 3 séances de consultation pendant lesquelles on a demandé au maître de trapage de se prononcer sur un projet ayant un impact sur 10 ou 15 ans. On leur a demandé d'indiquer où était leur camp sur une carte, les sources d'eau, les habitats de poissons, et on leur a demandé quels étaient les inconvénients d'avoir une route sur votre territoire. Mais ils n'ont jamais vu l'effet de une telle route sur leur territoire. Donc, comment peuvent-ils répondre à ce genre de questions? Si je demandais à un membre du COMEX, je pense que vous devriez déménager ici, quels seraient les inconvénients pour vous? Est-ce que vous pourriez répondre? Je ne pense pas. Vous n'avez pas de renseignements. Vous ne pouvez pas répondre à cette question.
Il n'y a rien qui indique qu'il y avait eu l'autorisation des maîtres de trapage. Au total, ces sessions qui ont duré 155 et 135 minutes, au total 420 minutes, 7 heures pour prendre une décision pour un projet qui va se répercuter sur les territoires de trapage pendant 15 ou 20 ans. Donc, je ne peux pas conclure que ce soit une consultation juste et adéquate. Je crois que si on ne définit pas bien les modalités à imposer aux promoteurs, je pense que ça va nuire à la réduction des impacts. Comment un projet pourrait faire fi de l'évaluation des coûts du projet? Et ensuite, il n'y a pas de recours prévu si la compagnie n'arrive pas à payer pour le coût de l'atténuation des impacts. Si on construit une route et que ça coûte trop cher et qu'ils n'en ont pas les moyens, mais quel est le plan derrière tout ça? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas de plan. Ma deuxième préoccupation, c'est que les données sont un peu désuètes. J'aimerais attirer votre attention sur l'annonce qui a été faite en octobre 2015, dans laquelle le ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcan, et le ministre du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, David Hurtel, ont tenu une conférence de presse avec Suzanne Method de l'initiative canadienne boréale sur la question de la conservation des forêts boréales et des changements climatiques. À cette conférence de presse, moi, j'ai été personnellement témoin du ministre Hurtel qui a annoncé une nouvelle initiative de recherche pour qu'on comprenne mieux le rôle de la forêt boréale dans le combat du Québec contre les changements climatiques. En outre, on a annoncé que les données ne pouvaient pas calculer la quantité de carbone séquestrée dans les forêts boréales. Bon, dans la vallée de la Broadback, vous savez, cette vallée est reconnue internationalement pour la lutte contre les changements climatiques. La même forêt qui piège plus de dioxyde de carbone que la forêt de l'Amazon. Le Québec a dit que la recherche s'impose pour trouver de nouvelles données pour vraiment bien calculer le carbone séquestré dans nos forêts. Et il faudrait absolument avoir des données qui sont manquantes, et ce sont les plus hauts responsables du Québec qui l'ont même reconnu. Les nouvelles données dans ce projet de recherche sont indispensables pour comprendre le rôle de la forêt boréale. Donc, les promoteurs demandent de couper cette forêt, d'abattre les arbres de cette forêt. Donc, la recherche est indispensable. COMEX devrait reporter ce projet jusqu'à ce que notre gouvernement comprenne bien le rôle de la vallée de la Broadback dans les changements climatiques. Ils se sont engagés dans ce sens. Ces nouvelles données vont également nous permettre de mieux comprendre la fragilité de l'écosystème et les processus nécessaires pour gérer la séquestration du carbone, le piégeage du carbone. Ces données sont cruciales et pourtant elles font défaut. En outre, il y a eu beaucoup d'occurrences dans le territoire et l'accès au territoire avec la construction des routes est indiqué dans l'étude d'impact. Pendant la construction seule, on s'attend à ce qu'il y ait 10 à 20 camions lourds qui circulent sur les routes. Après, pendant l'exploitation, il y aura 30 à 50 camions qui circuleront en tout temps. Et il y a une incapacité d'évaluer le nombre d'autres usagers. Ça, c'est cité directement de l'étude d'impact. Il y a un accès sans précédent au territoire avec des ressources qui ne sont pas tout à fait identifiées, non seulement en termes de faune, mais aussi pour la flore, la faune, et on ne connaît pas le niveau d'impact non plus. La solution du promoteur à tout ceci, c'est que le ministère doit avoir des ressources essentielles pour surveiller le territoire et pour maximiser la collaboration avec les communautés CRI. Et comme depuis que cette étude a été terminée, le gouvernement a beaucoup réduit les ressources allouées à notre région. Il y a eu beaucoup de postes coupés, de gardes forestiers, entre autres, et les budgets sont gelés jusqu'à avril jusqu'à avril 2015. Pour le caribou forestier, qui est indiqué comme étant vulnérable, mais dont la présence qui est maintenant considéré comme en voie de disparition. Alors, s'il y a moins de ressources pour surveiller et contrôler cette situation, que va-t-on faire? Il y a un manque total de ressources pour surveiller les ressources si ce projet va de l'avant. En outre, dans l'étude d'impact, on a fait référence plusieurs fois à une étude publiée en 2012 sur le caribou forestier. C'était basé sur 9 années de données télémétriques et démographiques. Les données ont été également recueillies dans la zone d'impact et cette information est essentielle pour vraiment dresser un plan de gestion adéquat qui permettra le rétablissement de cette espèce. Faute de quoi, je crois que les caribous sont plus susceptibles d'être touchés par ce projet qu'on ne s'en rend même compte. On ne peut pas commencer à exploiter une forêt qui est essentielle à leur survie. Est-ce que le COMEX est prêt à faire une recommandation sans tenir compte du rôle de la forêt pour l'existence de cette espèce? Personnellement, j'ai été touchée par la foresterie. Le territoire de trapage de ma famille a été touché. Bon, autrefois, il y avait des arbres qui poussaient uniformément, qui étaient magnifiques. Bon, il y a des arbres qui ont été coupés, qui ont été abattus. et maintenant il ne reste qu'une seule essence. Ça, c'est ma réalité. C'est la réalité de mes enfants. Mon mari a appris à mes fils à chasser dans cette forêt plantée. Il y avait des petits arbres qui étaient tout petits, qui sont devenus de vrais arbres aujourd'hui. Mais ma mère, qui est décédée, m'a raconté ses souvenirs d'enfance quand elle vivait dans le bois. Elle était la première génération à avoir ces coupes forestières. Ma grand-mère m'a raconté des histoires où elle voyait ses parents qui coupaient des arbres. Et quand j'avais 17 ans, c'était... vous savez, ma mère m'a raconté que... Et ma grand-mère, elles sont nées dans le bois. Il n'y avait pas de camion de transport, pas de travailleurs, personne pour planter des arbres. Sa famille a été élevée dans la nature. Elle vivait de la pêche et de la chasse et de la trappe. Mais comment ça se fait que notre relation avec la forêt a changé si rapidement? En trois générations, trois petites générations, autrefois, on est passé du stade où on dépendait de la forêt pour vivre, c'est-à-dire le mode de vie cri, et maintenant je dois aller me présenter devant une commission pour dire que pour défendre notre survie. La survie de la race humaine et aussi se défendre contre la course, dans la course contre les changements climatiques. Bon. Et maintenant, on devrait plutôt. Vous savez, la carte indique que le rouge indique. C'est ce qui a été exploité et le vert, ce qui est intact. Alors, j'aimerais vous donner d'autres définitions auxquelles je vous demanderai de réfléchir. Bon, les ressources renouvelables, une ressource qui se remplace naturellement, qui peut être réutilisée. La deuxième, ce sont les ressources non renouvelables, une ressource qui ne se renouvelle pas à un taux suffisant pour permettre une extraction économique et viable dans un échéancier raisonnable. Et maintenant, je me pose la question suivante. Si on est ici aujourd'hui pour voir comment on peut accorder l'accès à la forêt, je pense qu'il faut réfléchir davantage. Et notre forêt est la dernière de son espèce à exister. Donc, quelle définition s'applique à nos ressources forestières? Ce qui est vraiment unique dans l'audience d'aujourd'hui, c'est que les territoires de trappage sont touchés par ce projet. Donc, nous serons peut-être les derniers à pouvoir observer cette forêt. Ces territoires ne sont pas... Vous savez, ça fait trois générations que nous souffrons de ces problèmes. Le COMEX est le médiateur pour déterminer la réglementation entre le promoteur et la communauté qui est touchée. Nous avons énoncé notre position à voix haute. Pas de nouvelle route dans la vallée de la Broadback. Mais le promoteur dit autre chose. Ils veulent construire deux grandes routes qui vont aller directement dans la zone protégée. Ces deux positions sont en opposition directe. Il n'y a pas de possibilités d'entente entre nous. Je comprends que le COMEX s'est vu confier un mandat. Nous avons dit non. Vous devez prendre une décision pour vous rendre compte si vous allez dire oui ou non. Aujourd'hui, bien des fois, j'ai entendu, Monsieur le Président, vous avez dit, est-ce que vous êtes prêt à faire un compromis? Je suis ici parce que j'aimerais proposer un compromis. Bon, alors, demandons à l'industrie de faire aussi un compromis. J'ai demandé que si vous ne pouvez pas aboutir à une décision en faveur de notre communauté, qu'au moins vous fassiez un compromis en demandant une nouvelle étude d'impact. Non seulement ça va établir une relation positive entre la communauté et le promoteur, mais cela permettra aussi au COMEX d'avoir de la bonne information avant de faire une recommandation. Je crois que nous avons besoin de mener d'autres recherches pour ce processus. Et ce n'est qu'alors que ce projet pourra être discuté. Mais je dois également vous rappeler que si vous décidez de ne pas agir de la sorte, 90% de notre territoire et de notre mode de vie est fragmenté, a changé. Nous voulons protéger le 10% qui reste dans nos territoires, le 10% de notre communauté que nous voulons garder intact. Bon, on parle de construire une route temporaire qui va être source de profit, mais qui va changer à tout jamais notre peuple. Non seulement les membres de cette communauté ou de cette province, mais la population de cette planète. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous dis tout cela, mais en conclusion, je finirai par une citation. Une citation de 1866. Donc, il y a plus de 150 ans. C'était le chef Seattle. L'humanité a tissé la toile de la vie, mais nous sommes un fil dans cette toile. Tout ce que nous faisons à ce fil, nous le faisons à nous-mêmes. Toutes les choses sont liées et toutes les choses sont reliées. Je demande que le COMEX se rende compte que la décision qu'il va prendre va se répercuter non seulement sur la population de West Wanipi, mais aussi sur tout être, chaque être qui vit sur cette planète, parce que c'est la réalité de notre situation aujourd'hui. Nous sommes lancés dans une course contre les changements climatiques et nous devons gagner cette course. Et nous avons besoin de prendre un départ très solide, énergique. Merci. Merci beaucoup. C'est bon de vous entendre sur toutes ces questions d'entente et de désaccord. Merci beaucoup de cette présentation. J'aimerais souligner le fait que depuis la première étude d'impact, il y a des documents qui se sont ajoutés. Je suis sûre que vous connaissez les questions que nous avons posées aux promoteurs et les réponses que nous avons obtenues. Donc, toute l'information mise à jour, nous aussi, nous avons le même genre de préoccupation que vous. Donc, tous ces documents sont affichés sur notre site web. Donc, sur cette question, je peux dire que la plupart de vos préoccupations concernant la qualité de l'information fournie dans l'étude d'impact et la qualité de l'information que nous allons utiliser pour prendre une décision, je pense que je peux vous rassurer et vous dire qu'en tant que comité, nous avons assez d'informations pour aller de l'avant et mener cette consultation. Si nous, en tant que comité, avions l'impression de ne pas avoir assez d'informations, nous ne serions pas allés de l'avant pour tenir cette audience. Parce qu'avant d'avoir cette audience, nous devons, en tant que comité, nous devons décider que nous sommes satisfaits de la qualité, de la quantité de l'information que nous avons reçue. Ça ne veut pas dire nécessairement que nous sommes tout à fait satisfaits, mais assez pour aller de l'avant et tenir ces audiences. Il devient tard, il se fait tard, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Peut-être que certains de mes collègues ont des questions? Non. Merci beaucoup de votre présentation. Je vais prendre 30 secondes pour parler à mes collègues pour voir comment nous allons gérer notre programme, notre horaire.